Alors, le Centre d'information sur le droit des femmes et des familles est une association qui a une mission d'intérêt général.
La minute du CIDFF.
De parler de beaucoup de sujets, de beaucoup de thèmes qui sont en relation avec vos missions.
Le Centre d'information sur le droit des femmes et des familles.
Venir interroger chacun d'entre nous sur nos représentations et puis de pouvoir observer pour pouvoir peut-être bouger les choses.
Sur 48 FM.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour votre émission La Minute du CIDFF sur 48 FM. C'est le retour, c'est la première de l'année 2022-2023. Et pour cette première, on va retrouver deux invités avec Claire qui est là. Bonjour Claire.
Bonjour Ludo.
Également Lara du CIDFF, toujours. Bonjour Lara.
Bonjour.
Alors pour cette première émission, vous vouliez qu'on parle d'éducation égalitaire et peut-être commencer par quelques petites anecdotes. Déjà, qu'est-ce qu'on entend par éducation égalitaire ?
Alors du coup, on voulait venir avec ce sujet-là parce que c'est la rentrée, voilà, nos enfants retournent à l'école et on pense que c'est important en tant que parents de se questionner sur ces questions-là. Peut-être un rappel sur ce qu'est le genre et du coup pourquoi on parle d'éducation égalitaire. En gros, c'est un outil d'analyse qui nous permet un peu de débusquer les sources d'inégalités entre les femmes et les hommes. On est encore aujourd'hui malheureusement dans un système qui différencie les femmes et les hommes et qui hiérarchise un petit peu. On crée des normes, des rôles qui sont enfermant, et c'est important de s'en rendre compte pour pas les reproduire inconsciemment. Voilà. Donc quand on parle d'éducation égalitaire, sur les filles et les garçons, on a plein de petits exemples. Alors je sais pas si vous en avez, vous.
Alors quand on parle d'éducation égalitaire, on parle d'éducation au sein de la famille, c'est l'argent.
Éducation générale.
Pas, parce qu'on pense obligatoirement à l'éducation nationale, mais non, là c'est pas le cas aujourd'hui.
Mais là justement, ça va être aussi de se dire que l'éducation c'est quelque chose de très, très global et qui vient de partout. C'est-à-dire que nous, effectivement, là on va suggérer des pistes en tant que parents, etc., etc. Mais on sait qu'on peut pas tout faire, on peut pas être parfait, et que l'éducation c'est aussi l'école, c'est aussi les personnes qui nous entourent, c'est aussi les expériences de vie, etc., etc. Donc là on va essayer de questionner ce qu'on peut faire nous, à notre échelle de parents, mais effectivement, il n'y a pas de miracle parce que c'est beaucoup plus compliqué que ça et que c'est tout un système, en fait, qui est en place, quoi, pour l'éducation de quelqu'un.
Voilà, alors, donc, par exemple, quand tu parlais d'anecdote, c'est le jouet rose offert à notre garçon qui va faire débat au moment de Noël avec le cousin qui va dire comment ça, un jouet rose, pourquoi, ou la poupée offerte à un garçon. Voilà, c'est toutes ces anecdotes-là que moi j'ai vécu personnellement, j'imagine qu'on est peut-être plusieurs à avoir vécu.
Je sais pas, moi, oui, par exemple, j'ai des amis qui ont des garçons. Quand arrive l'hiver, si jamais leur compagne ou leur compagnon a le malheur de dire « Ah, maintenant, il fait froid, il faut lui mettre un collant », j'ai vu des papas réagir un petit peu fort en disant « Non, on va pas mettre un collant à mon garçon », enfin, comme si ça allait impacter quelque chose et de l'ordre d'une transformation ou d'un trouble dans l'identité de genre, alors qu'en soi, pourquoi ça pose question ? Voilà. Donc, quand on parle d'éducation égalitaire et non sexiste, c'est toutes ces petites questions-là. Je sais pas, Claire, toi, est-ce que
c'est ça? Alors moi, j'en ai plusieurs aussi, des anecdotes. Enfin, je sais que ma fille a fait du baby rugby l'année dernière, et c'est vrai que ça surprend un peu. Tu mets ta fille au rugby. Bon, voilà. Donc effectivement, il y a toujours un peu cette surprise. On sort de la, entre guillemets, de la normalité du banal. Il y a plein de petites choses. Et c'est vrai que des fois, même nous, enfin, je veux dire, par exemple, Lara et moi, c'est notre boulot de débusquer un peu les stéréotypes et les attitudes comme ça. Et mine de rien, on n'est pas infaillible. Et même quand on est là-dedans, on a tous et toutes des genres de réflexes qui nous reviennent de l'enfance. Et moi, je me rappelle une fois de m'être entendue et de m'être dit, mais pourquoi tu dis ça? Quand mon petit garçon, sa première année d'école, me dit, j'ai bien joué avec une telle, machin, machin, tout ça. Et de lui dire, tu t'es fait une amoureuse. Et me rattraper tout de suite en me disant pourquoi tu viens déjà poser quelque chose de l'ordre de la relation amoureuse. Je veux dire, t'as un gamin qui a 5 ans qui te parle, il traîne avec une fille. Enfin voilà, et d'avoir fait ce raccourci parce que nous, on l'a entendu plein de fois quand on était gamin et on reproduit ça. Et je crois qu'aujourd'hui, l'éducation égalitaire, c'est de se dire essayons de questionner là où peut-être on n'a pas besoin de reproduire, mais on peut modifier nos façons de voir les choses. Mais c'est en fait un travail, c'est pas inné, c'est pas spontané, il faut se poser des questions et prendre du recul et c'est pas facile.
C'est ça, pourquoi on donne parfois des petits surnoms aux filles alors qu'on va avoir tendance à appeler les petits garçons plutôt par leur prénom. Pourquoi on va se poser une question, par exemple, si notre petit garçon il flash sur un cartable rose à la rentrée, où on va se dire, quand même, comment ça va se passer, est-ce qu'on va pas se moquer de lui à l'école? C'est toutes ces petites choses-là qui en fait ne sont pas des problèmes en tant que tels, mais qui inconsciemment viennent nous bousculer. Parce que le problème avec tout ça, c'est que c'est vraiment très fin, c'est très inconscient. C'est difficile en tant que parent de trouver ces potentiels hiérarchies qu'on a, qui nous ont été inculqués depuis la tendre enfance, et si ce n'est depuis des générations, et qu'on fait complètement inconsciemment.
Voilà. C'est ça. Et puis, c'est pas un détail qui va provoquer tout de suite une personnalité comme ci, comme ça de l'enfant. Mais c'est ça, plus ça, plus ça. C'est tout un ensemble, hein, quand on parlait tout à l'heure. C'est presque un système. Donc, c'est juste de se dire, OK, ce que j'aborde là, est-ce que ça vient en remettre une couche, est-ce que ça vient nourrir ça, ou est-ce que éventuellement ça vient apporter un autre modèle, parce qu'on va parler de l'importance de diversifier les modèles justement et de pas toujours être dans ce modèle du féminin avec toutes ses caractéristiques et du masculin avec toutes ses caractéristiques.
Et pourquoi c'est important qu'on parle de ça? Parce que il y a plein d'expériences, hein, qui ont été faites auprès d'adultes, auprès de parents, auprès d'enfants, pour montrer à quel point, même sans le vouloir, on induit des choses.
On traite différemment les enfants selon si c'est une fille ou garçon.
Voilà. Alors, par exemple, il y a l'expérience de Condi, où alors on a mis des parents face à des visages d'enfants, des nouveau-nés, voilà, en leur indiquant si c'était une fille ou un garçon, des visages d'enfants qui pleurent, et on leur a demandé de savoir, d'expliquer pourquoi les enfants pleuraient. Et bien, il se trouve que quand c'était des garçons, les parents avaient plutôt tendance à dire « Ah, c'est parce qu'il est en colère » ou « C'est parce qu'il a faim ». Et plutôt indiquer, si il était dit que le visage d'enfant était le visage d'une petite fille, qu'elle était triste ou qu'elle avait de la peine et qu'il fallait la consoler. Donc du coup, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est que ça implique pas les mêmes actions. Quand on est en colère ou quand on a faim, il faut agir. Quand on est triste, il faut consoler, il faut prendre
être
soin.
Consoler, donc c'est ça. On est dans la passivité, alors que les petits garçons, entre guillemets, seraient dans l'action presque.
C'est ça. Dans l'inconscient collectif, il y a encore cette image que si un bébé garçon pleure, c'est qu'il a quelque chose d'important. Et qu'un bébé fille qui pleure,
c'est du sentimental.
Elle a plus besoin d'être consolée, tout ça. Il y a plein de choses. On peut prendre l'exemple du plan incliné aussi.
Ouais, alors moi, c'est une expérience que j'avais trouvée super intéressante. Donc, c'était Françoise Héritier qui s'était servie de cette expérience-là pour démontrer un petit peu la différence d'appréciation qu'on a de nos enfants selon si c'est fille ou garçon. Ils ont mis des petits garçons et des petites filles qui marchent pas encore, qui se tiennent pas encore debout, dans une salle avec des plans inclinés. Avec des plans inclinés en mousse, la salle de motricité, avec plus ou moins de degrés d'inclinaison. Et sans les parents. Il faut pas que les parents soient présents. Et on regarde, on observe que, grosso modo, les filles vont plus haut, elles vont plus facilement, elles sont plus nombreuses à aller plus haut sur les plans inclinés avec une pente plus raide. Ensuite, on appelle les parents et on leur demande à chaque parent, à votre avis, sur jusqu'à quel plan incliné votre enfant va aller. Et là, les parents de petits garçons vont dire « Non, mais lui, c'est bon, c'est un casse-cou, hein, l'idée du casse-cou qui revient souvent, il va pouvoir aller jusque-là, il va pouvoir aller bien haut. » Là où les parents des filles vont plutôt dire « Oh non, elle va plutôt faire attention, etc. » Et en fait, on se rend compte que les parents, de manière général, sous-estime les petites filles de plus de 20 degrés et surestime les petits garçons de plus de 20 degrés. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont encore tout petits, ils savent pas encore marcher. On en est déjà à présupposer des capacités des uns ou des autres. Et ouais, les petites filles, elles vont moins oser que les garçons. Alors que, en fait, dans le résultat, bon, d'ailleurs, c'est l'inverse, mais peu importe, le résultat pourrait être neutre, pourrait être le même. Je veux dire, c'est une histoire de personnes et on est déjà à poser un regard biaisé sur ses propres enfants. Donc, on vient quand même poser des sacrées choses.
Ce qui risque après d'avoir des fortes incidences parce que...
On propose moins aux filles des trucs qui pourraient être dangereux parce qu'on va se dire bah non, elle le fera pas, elle va pas oser. Et les garçons, on les laisse plus faire les casse-coups. La notion du casse-cou, c'est quand même...
Et ce qui est terrible, c'est que petites choses. C'est comment on s'adresse aux bébés garçons, aux bébés filles dans le ventre. Mais en fait, toutes ces petites choses-là qu'on implique inconsciemment vont faire que quand on arrive à l'âge adulte, on arrive à des comportements, des caractéristiques, des caractères qui vont s'être parfois développés de manière complètement différenciée. Et c'est dommage, en fait.
Alors, qu'est-ce que l'on peut faire?
Alors, du coup, ce qui nous paraît, nous, vraiment très important, c'est de travailler sur les normes. Donc, c'est-à-dire de discuter, d'échanger.
De questionner.
C'est ça. Il ne s'agit pas de dire ça, c'est bien, ça, c'est mal. On a des parents, des fois, qui viennent nous voir en disant « Oh, non, mais moi, j'ai un petit garçon, il joue qu'avec des voitures, qu'est-ce que je fais? Voilà, c'est bon, j'aimerais bien qu'il fasse autre chose. » Et en fait, c'est juste de chercher à proposer d'autres modèles et d'accueillir ce qu'est l'enfant, en fait, sans prendre parti pour l'un ou pour l'autre et surtout pas d'interdire.
Il ne faut pas non plus forcer à aller contre la norme, autant qu'il ne faut pas forcer à rester dedans. C'est-à-dire on propose une variété de choses et on laisse les enfants choisir. Et comme ça, on est plus convaincu que c'est l'enfant qui a choisi par goût, vraiment par son envie, que parce qu'on a pu, si on propose toujours la même chose. Donc c'est vrai qu'on peut voir que des fois, dans des familles où il y a et des garçons et des filles, du coup, il y a une transversalité des jeux et des jouets qui est proposée, qui fait que les enfants vont plus avoir de diversité, vont jouer un peu à tout et vont choisir d'eux-mêmes. Alors qu'effectivement, des fois, dans des familles où il y a que des garçons que des filles, si on ne leur propose que des jouets qui sont entre guillemets attribués à leur genre, et ben du coup il y a moins de choix. Donc si un petit garçon lui propose jamais de jouer à la poussette, à la poupée, à la dinette ou quoi, peut-être qu'il aurait pas aimé s'il y en avait, mais peut-être qu'il aurait aimé, et ça on le sait pas. Du coup il y a déjà une influence qui s'est faite.
Et il y a un âge de toute façon où les enfants ils cherchent à tout prix à s'identifier aux normes de la société. Ils veulent absolument ressembler au modèle qui est prôné de manière globale. Donc ça c'est pas grave.
C'est pas un problème si votre fils il adore les camions. Moi ma fille, que votre fille elle adore le rose, elle adore les princesses, grave. Elle adore les licornes. Voilà. Donc il y a pas de souci. L'empêcher de faire ça en me disant non, elle est hyper stéréotypée, ce serait exactement la même chose que de vouloir qu'elle aille dedans. Et c'est ça où il faut faire attention quand même.
Donc le rôle des parents c'est vraiment de jouer les contradicteurs, les contradictrices pour développer l'esprit critique. C'est pourquoi tu penses à ça? Est-ce que tu penses vraiment que c'est qu'un truc pour les garçons, qu'un truc pour les filles? Nous, on intervient auprès d'enfants de la maternelle jusqu'au post-université. Des fois, on a des enfants qui nous disent « Non mais franchement, madame, le foot, c'est pour les garçons. » Ok, pourquoi tu penses ça? Il ne s'agit pas d'être agressif ou d'être en colère, c'est juste de questionner.
Et ça fait penser effectivement au petit garçon qu'on a vu l'année dernière, un petit garçon de CM2 qui a dit dans sa classe « Moi, j'ai fait de la danse des années parce que j'adorais ça et j'ai dû arrêter, j'ai choisi d'arrêter parce que mes copains se moquaient de moi. » Et là, quand même, ils prennent conscience. On se dit « C'est quand même triste, un loulou qui s'arrête, qui s'empêche de faire l'activité qu'il aime. » Parce que le regard des autres et parce que la norme.
Le but, c'est vraiment d'aider les enfants à déconstruire, c'est-à-dire à ouvrir un imaginaire où on donne des modèles identificatoires très variés. Parce que du coup, plus on ouvre l'imaginaire, plus on ouvre le champ des possibles. Et ça, c'est intéressant. Mais pour ça, il faut être aussi force de proposition de modèles. Voilà. Parce que les enfants, ils naissent pas hors sol. Ils sont dans une société où, Claire, elle a pu faire une émission sur le marketing genré. On sait bien que dans les manuels scolaires à l'école, il y a des figures qui vont être... où on va plus retrouver la mère, où les hommes ils ont plus de métiers que les femmes, on va parler de la littérature jeunesse, on a pu parler du cinéma, on est... La société dans laquelle on est sexiste, elle est productrice d'inégalités. Donc du coup, en tant que parent, on est responsable, mais pas seul. Donc du coup, comment on fait pour travailler là-dessus?
Voilà, et le foot c'est pour les garçons, ça existe encore, ça n'a pas changé, ça dans les cours d'école, les filles...
C'est ça, ça dépend, ce qui est rigolo c'est que ça dépend vachement des cours d'école, ça dépend des écoles, alors c'est difficile pour l'instant, on ne peut pas encore dire qu'est-ce qui fait que dans telle école ou telle école, je sais que nous quand on avait comparé notre enfance avec Lara justement à l'école, moi j'ai vécu dans une école où il n'y avait pas cette question-là, la question ne se posait pas, on était un groupe classe, on jouait tous ensemble à tout, on jouait autant tous à trappe-trappe qu'au foot, qu'aux cartes, moi j'ai jamais ressenti ça, je suis arrivée au collège et là j'ai pris une claque parce que là il y avait des stéréotypes, à l'inverse où Lara m'a raconté plutôt qu'elle avait ressenti des choses en fait, si les filles demandaient, c'était moins accepté. Et quand on va en classe et qu'on questionne les élèves dans les écoles, on a vraiment les deux réponses. C'est-à-dire qu'il y a des gamines qui vont dire « Bah non, moi quand j'essayais de jouer au foot, j'ai demandé une fois, deux fois, trois fois. » On me dit non. On me disait non, c'était que pour les garçons. Et d'autres, on nous dit « Nous, ça n'a jamais été une problématique. » Mais on sent bien que selon les endroits, c'est tout l'un ou tout l'autre. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de... Enfin, on ne sait pas. Dans la classe, dans l'école, il y a une culture du...
Et ce qui est intéressant, c'est que c'est bien sûr plus évident pour... les filles, de se projeter dans des modèles, on va dire, masculins. On trouve bien plus de filles inscrites dans les clubs de foot que des garçons inscrits dans les clubs de danse. Parce que le masculin est plus valorisé, c'est plus facile pour les filles d'aller dans ces modèles-là que l'inverse. Et puis, c'est tout simplement, si on parle de médiatisation, vous connaissez tous Mbappé, est-ce que vous connaissez François Allu ou Hugo Marchand, qui sont des danseurs étoiles à l'Opéra de Paris? On n'en entend jamais parler. Et donc, ces modèles-là masculins, qui sont par exemple des hommes qui font de la danse et qui ont des carrières qui sont incroyables, on n'en entend jamais parler. Il n'y a pas de filles, il n'y a pas de garçons en termes d'éducation, en fait. Il n'y a que de l'épanouissement.
Il y a des enfants. Il y a des enfants avec plein de possibilités, plein d'envies, plein de... Il y a des choses avec lesquelles ils vont arriver. Il y a des choses qui vont aimer, qui ne vont pas aimer. Mais ce n'est pas à nous de décider pour eux.
Et peut-être un dernier point, du coup, par rapport à cette éducation égalitaire. Il faut aussi la relier à la question des violences. Parce que proposer une éducation égalitaire, c'est proposer des modèles moins rigides, des modèles plus nombreux, des milliers de façons d'être un enfant, d'être une fille ou d'être un garçon, d'être ce qu'on veut. Et que cette diversité de modèles a fait qu'on sort des archaïsmes aussi qui conduisent parfois à
faire des clans, les garçons d'un côté, les garçons de l'autre. Si on reste dans un monomodèle garçon et un monomodèle fille, on vient vraiment les séparer, les distinguer. Et du coup, il peut y avoir potentiellement affrontement. Alors que si tout le monde est un peu comme il veut, tout le monde est très différent, mais il n'y a pas d'archétype, c'est plus fluide, plus de fluidité et du coup moins de violence.
Et qui a tendance parfois, la société dans laquelle on vit, elle a tendance à valoriser une forme de masculinité, de virilité, qui peut être le terreau de la violence. Donc proposer une éducation égalitaire à nos enfants, c'est aussi travailler là-dessus.
Voilà, et c'est à tout âge aussi, parce que là, on parle des petits-enfants, on a vu que, par exemple, pour l'argent de poche était supérieur chez les garçons que chez les filles. Pour les sorties, pareil, peut-être par une crainte d'insécurité, les garçons sortent plus facilement, plus tôt que les filles. À tout âge, on retrouve ça, finalement.
C'est ça. Et en fait, des petites choses qui vont se construire au moment de l'enfance, et ben en fait, ça va prendre des proportions... Voilà.
Et puis je dirais sur les modèles qu'on donne, parce que des fois on pense éducation, qu'est-ce que je mets en place, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je dis. Il y a des fois juste ce qu'on est, ça montre des choses. Et par exemple, aujourd'hui on parle vachement de charge mentale et de partage des tâches. Et des fois on se dit, moi j'aimerais bien que mes gamins ils soient au courant qu'on partage, mais qu'est-ce que je montre? Parce que effectivement, là par exemple, quand on fait le test dans des classes de CP, CE1, CE2, CM1, etc., en primaire, on leur dit, est-ce que les mamans adorent faire le ménage? La plupart des petits garçons
nous disent
oui. Convaincue. Bah oui, elle le fait tout le temps, ça veut dire qu'elle adore ça. Si dans votre situation, c'est vous qui le faites parce que, voilà, c'est vous qui avez le temps ou quoi, ok, c'est pas tellement le sale souci, mais peut-être de verbaliser, de dire les choses. Bon, voilà, je le fais, mais en fait, c'est pas forcément ma passion. C'est parce que, là, moi, j'ai le temps, lui, il a pas le temps, etc. Enfin, voilà. Faut verbaliser les choses.
Et de se poser les questions en tant que parent. Et de juste essayer de s'observer un peu, de prendre un peu
de recul. Prendre du recul, aller se renseigner un petit peu, regarder ce qui se fait, questionner.
Voilà. Est-ce qu'on, pour terminer cette émission, on peut recommander peut-être des livres à lire ou je sais pas, quelque chose sur le sujet?
Alors une base, c'est le livre d'Aurélia Blanc qui sera « Tu seras un homme féministe, mon fils », voilà, qui est une grosse référence, qui a eu un succès pas possible parce que c'est une maman qui parle de la manière dont elle a, dont elle veut faire avec son petit garçon, voilà. Bien sûr, écoutez le podcast « Des couilles sur la table » qui pose la question des masculinités, des questions d'éducation, de ce que c'est que d'être père. Le blog Égalimère aussi sur Internet. Enfin, il y a plein de choses. Il y a plein de parents qui se posent plein de questions et qui parfois se sentent un peu seuls et qui partagent leurs expériences.
Et c'est puis une fois qu'on commence par un blog, par un podcast, ça vient amener d'autres choses. Et une fois qu'on met le doigt dedans, en général, c'est vraiment juste se poser la première question. Ça vient déclencher plein d'autres choses. Nous, c'est juste ça qu'on veut, c'est que les gens se questionnent.
Eh bien, merci bien.
Merci à toi.